Nous avons le plaisir de vous proposer sur nos antennes de Radio Présence dans le Lot un nouveau rendez-vous mensuel avec Monseigneur Camiade, évêque du diocèse du Lot depuis 2015. Ce temps de rencontre sera co-animé par Jean-Claude Bonnemère et votre serviteur Pascal Bahut. Et à la technique, nous avons la joie d'avoir Imanol avec nous. Monseigneur Camiade, merci tout d'abord d'avoir répondu à cette invitation et à cette proposition de se retrouver mensuellement pour cette émission de radio.
Merci à vous et bonjour à tous.
Tout de suite, Père, et nous ne pouvions pas vous recevoir sans évoquer avec vous l'actualité nationale, mais c'est Jean-Claude qui va vous interroger sur le sujet.
Oui, Monseigneur Camiade, ces jours-ci, on ne peut pas y couper cette actualité autour de l'abbé Pierre, avec ces révélations plutôt fracassantes dans l'actualité. Tout le monde se pose des questions. On se demande aussi, est-ce que l'Église savait pas. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Quel est votre sentiment?
Ben, c'est d'abord un sentiment de tristesse, parce que je pense à toutes les personnes victimes. On entend parler même d'une personne qui avait 8 ans quand elle a été agressée sexuellement par l'abbé Pierre. Alors bien sûr, tout ça est à mettre avec des conditionnels, parce qu'on a des informations en vrac dont on ne sait pas si elles ont toutes été contrôlées ou autre. Mais enfin bon, vu le nombre de témoignages, on est bien obligé de penser qu'il s'est passé des choses graves. Voilà, et puis bon, mon sentiment, c'est qu'il était peut-être temps que ça sorte, puisque pendant des années, ça a été une personne qui a été plutôt vedettarisée. Voilà, on sait bien comment il se situait. Et évidemment, ce qui est assez remarquable, moi, quand je pense à l'abbé Pierre, je pense encore à toute l'aventure d'Emmaüs et tout le cri qu'il a su pousser, l'appel de 1954, en plein hiver, où il a su mobiliser toute une ville pour la solidarité envers ceux qui vivaient dans la rue en plein hiver et qui allaient mourir de froid. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Et je pense que c'est ce geste, enfin cet acte qui a été le sien, la capacité de mobilisation qui a été la sienne, eh bien, on doit garder une certaine gratitude malgré tout, mais on découvre que c'est une personnalité troublée affectivement et puis même avec une certaine violence, quoi. Ça c'est très déconcertant, mais ça dit aussi la complexité de la nature humaine. Et le fait que c'est pas parce que quelqu'un fait de bonnes choses que tout ce qu'il fait est irréprochable. Là, voilà, on voit bien cela, mais on le voit aussi peut-être en chacun de nous. Alors peut-être pas dans ces proportions-là, bien sûr, mais enfin nous sommes tous fragiles et on est capable du meilleur et du pire. Et tout le combat de la vie humaine, c'est d'essayer d'aller de tendre vers le meilleur. Voilà. Après, il y a la question effectivement de la manière dont ceux qui ont été au courant de ceci ou de cela, mais on ne sait pas bien de quoi ils étaient au courant. Je crois qu'il y a tout un tas d'enquêtes qui vont sans doute permettre de le préciser un peu, mais bon, on ne peut pas l'interroger lui, puisque maintenant, il est parti de l'autre côté de la vie. Je ne sais pas quel compte il a à rendre auprès du Seigneur. Mais en tout cas, de notre point de vue, je crois que c'est important pour les personnes victimes, pour aussi l'histoire, la vérité historique, d'essayer d'en savoir un peu plus et de voir aussi qui a pu avoir certaines responsabilités. Mais on voit bien que c'était aussi dans un contexte différent du nôtre, et je crois que ce qui est positif, c'est que justement aujourd'hui, une situation comme ça ne serait pas traitée de la même manière qu'elle l'a été à l'époque, que ce soit au niveau de l'Église ou au niveau de la société. Quand on a donné la Légion d'honneur à l'abbé Pierre, je ne sais pas si vraiment on ignorait tout de ses faiblesses, mais enfin, ça a été fait quand même. C'est pas l'Église qui l'a fait. Beaucoup d'autres, personnalités préférées des Français, la plupart des Français ignoraient tout, bien sûr. Parmi les médias, parmi ceux qui étaient plus au courant des choses, je ne sais pas ce qui avait pu percer ou autre. En tout cas, lui-même a tenu à dire qu'il n'avait pas été exemplaire dans sa, dans son célibat sacerdotal, dans le dernier livre qu'il avait écrit. Je ne sais pas si c'était le dernier, enfin bon. Mais on ne savait pas que ça a été jusque-là, avec tant de violence, quoi. Donc voilà, c'est triste.
Alors, un autre sujet qui tourne dans l'actualité, c'est cette contrariété qu'éprouve certains milieux de savoir que le pape ne veut pas venir pour l'inauguration des nouveaux travaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après 5 ans qui ont été quand même spectaculaires pour remettre cet édifice et le rendre à son service du culte, avec tout de même un investissement de plus de 700 millions d'euros, on imaginait que le pape allait venir. Et finalement, il a dit non.
Ben oui, j'ai entendu ça comme tout le monde. Il a dit je n'irai pas à Paris, voilà. En même temps, c'est pas une grande surprise parce que ça fait des années que le pape dit que le choix qu'il a fait dans les déplacements à l'étranger, c'est d'aller vers les périphéries, c'est d'aller vers les lieux les plus fragiles, les plus là où il y a des gens plus en difficulté. C'est pas là où on est capable de dépenser 700 millions. C'est pas son critère. Son critère, c'est d'aller réconforter les plus pauvres, et le fait que la France ait été capable de rénover Notre-Dame de Paris est tout à fait une belle chose, honorable. Ça nous rappelle aussi, puisqu'il s'agit bien de la cathédrale de Paris, la signification de ce que c'est qu'une cathédrale. Moi, je n'irai pas non plus à Paris le 8 décembre, mais peut-être je serai à la cathédrale pour aussi, parce qu'il y a des cathédrales aussi dans tous nos diocèses et qu'elles sont importantes et qu'on peut y célébrer Notre-Dame. Le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, mais ça tombe un dimanche cette année. Voilà, en tout cas, je suis très heureux et je rendrai grâce avec toute l'Église de la réouverture de Notre-Dame de Paris, dont l'incendie, évidemment, nous avait tous profondément choqués.
Peut-être, Père, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a d'autres priorités que les pierres et que dans le choix, j'allais dire, du pape de dire « je ne viendrai pas », vous l'avez bien redit, c'est aller vers les périphéries, et qu'il y a d'autres enfin, il y a aussi d'autres priorités aujourd'hui.
Bien sûr, oui. Et le message que le Saint-Père veut nous donner, c'est celui-là, c'est de tourner nos regards vers les plus pauvres, vers les plus éloignés, voilà, comme il l'a fait encore récemment. Enfin, son message est clair, et je pense qu'il y a une certaine cohérence. Il a accepté de venir à Marseille, ne nous en plaignons pas, et d'y célébrer la messe. C'était prévu parce que il venait à Marseille à l'occasion des rencontres des évêques de la Méditerranée, parce que justement la Méditerranée, avec tous les drames qui s'y jouent aujourd'hui, mais aussi tous les défis d'avenir, représente quelque chose de très important pour lui, sur lequel il a souvent insisté. Donc il participait à ces rencontres, et avec l'insistance, il faut le dire, du cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, et il a accepté de participer à une célébration eucharistique c'était au stade Vélodrome de Marseille en septembre dernier, mais voilà, il ne va pas accepter chaque fois de se faire convaincre de venir. Là, il n'a pas de raison particulière de venir à Paris. En tout cas, l'inauguration, la réouverture de Notre-Dame se fera très bien, même s'il n'est pas là. Et je pense que c'est pas une. Il ne faut pas le prendre comme une insulte, mais comprendre quel est le sens de ses priorités.
Alors peut-être que, en fait, la France a tendance à avoir une perception un peu nombriliste au niveau de la planète, alors que si on peut évoquer juste le retour du pape François de sa visite qui a été la plus longue de son ministère en Asie, avec des chiffres qui font rêver, comme par exemple au Timor oriental où paraît-il que quasiment la moitié de la population était à la dernière messe. On n'est pas dans les mêmes proportions qu'en France.
C'est certain. Alors c'est sûr que on pourrait se dire, ben justement, en France, la déchristianisation, la sécularisation est un drame sur lequel on a besoin d'être peut-être guidé pour essayer de voir comment vivre notre foi dans ce contexte-là. On dit que le pape, quand il va venir donc dans des petits pays européens, Belgique et Luxembourg, dans quelques jours, prendra la parole justement à propos de la sécularisation. Je ne sais pas ce qu'il nous dira, mais effectivement, nous avons des défis, hein, mais qui sont un peu des problèmes de riches, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, nous plaignons beaucoup, nous vivons une crise politique, nous avons toutes sortes de difficultés. Il y a beaucoup de pauvres aussi en France, mais malgré tout, si on doit se comparer à bien d'autres pays sur la planète, on reste parmi les plus aisés, il ne faut pas se le cacher. Et donc, nous avons peut-être en nous-mêmes déjà des ressources que nous avons à solliciter pour essayer de retrouver le sens de notre vie, pour essayer de retrouver aussi nos racines, justement. Une magnifique cathédrale ancienne qui a 850 ans, Notre-Dame de Paris, 900 ans celle de Cahors. Nous avons un patrimoine spirituel, pas seulement des pierres, mais derrière ces pierres, toute une histoire de foi. Il nous suffit d'aller la chercher, hein, et peut-être parfois nous sommes riches, mais nous nous croyons très pauvres.
Père, vous avez évoqué la cathédrale de Cahors. Alors, si vous le permettez, revenons
à Cahors.
Revenons à Cahors dans notre diocèse. Nous sommes à une période de rentrée. Peut-être que vous pourriez évoquer ce que nous allons vivre pastoralement dans cette nouvelle année qui s'ouvre à nous.
Alors, je suis pas Madame Soleil, donc je ne peux pas vous dire tout ce qui va se passer cette année, mais
quelques projets pastoraux.
Alors, quelques projets, c'est principalement. Donc, j'ai publié là le 15 août une lettre pastorale qui s'intitule « Nourrir et soigner nos liens dans la saveur de l'Évangile ». Et c'est un peu une orientation pour l'année en particulier, de prendre soin de nos liens avec cette image des noces de Cana. Où en fait ce qui est demandé aux hommes, c'est d'apporter de l'eau. Les serviteurs remplissent d'eau des cuves et Jésus la transforme en vin. Et voilà, pour que nos liens au sein de l'Église et nos relations aussi avec ceux qui ne sont pas croyants ou qui sont croyants autrement et qui nous entourent, donc tous les liens et nos liens aussi avec la planète, avec la nature qui nous entoure, tous les liens que nous vivons, nous avons à les soigner, à apporter notre eau, à faire ce que nous pouvons pour que ce soit de meilleure qualité, en sachant que c'est pas si facile, les relations humaines, les relations même avec la planète, il y a toutes sortes de difficultés, d'obstacles. Mais nous pouvons essayer de faire quelque chose et d'avancer dans ce sens, de progresser et compter sur le Christ pour transformer cette eau en vin, cette eau que nous aurons apportée pour remplir les cuves. Voilà, c'est ce que j'invite, enfin c'est un peu l'axe principal de l'année sur laquelle j'invite à travailler pour toute l'Église.
Alors, Jean-Claude.
Justement, vous menez un gros chantier, si j'ose dire, autour de la synodalité. La synodalité, déjà, vous pourriez peut-être nous rappeler la signification de ce mot qui n'est pas courant et peut-être bien compris, puisque c'est aussi, pour vous, un axe fort dans votre ministère.
Oui, mais c'est aussi là une grande intuition du pape François, hein, d'inviter l'Église à renouveler sa dimension synodale. Alors qu'est-ce que ça veut dire synodale? Ça veut dire marcher ensemble, tout simplement. C'est avancer ensemble, c'est cheminer ensemble. L'Église est appelée à inverser la tendance individualiste qui marque notre culture, où chacun cherche à faire son chemin tout seul, si possible en écrasant un peu les autres. Là, je caricature, mais c'est parfois un peu ça. Il s'agit au contraire d'être à l'écoute les uns des autres pour pouvoir avancer un peu, alors si possible un peu dans la même direction, en tout cas de nous orienter aussi ensemble. Il y a cette dimension là et donc pour l'Église c'est assez fondamental, cette recherche d'unité et cette recherche de communion d'aller ensemble vers le Christ, sachant que le but de notre route c'est la vie éternelle.
Alors, cette synodalité, on peut imaginer aussi qu'elle s'inscrit dans le cadre de cette raréfaction des prêtres, notamment, peut-être qu'il y a derrière aussi un appel plus fort aujourd'hui encore à ce que les laïcs s'engagent davantage.
Alors oui, quand on dit ensemble, il ne faut pas penser effectivement que les prêtres ou que les évêques, mais bien tout le peuple de Dieu baptisé, les laïcs, les religieux, les religieuses aussi, les diacres, les prêtres et l'évêque, et les évêques même au niveau de l'Église universelle avec le pape, c'est tous ensemble, oui, que nous avons avancé. Alors après, la question de la raréfaction des prêtres peut-être nous pousse à penser davantage aussi l'implication des baptisés laïcs. Mais en fait, c'est pas une raison fondamentale. Même s'il y avait pléthore de prêtres, il faudrait vivre cette synodalité. Mais c'est vrai que le pape pointe souvent le risque, la tentation du cléricalisme qui consisterait à faire en sorte que seulement ceux qui sont le clergé exerceraient une autorité sans être à l'écoute du reste du peuple de Dieu. Donc il y a effectivement dans la synodalité quelque chose de l'ordre de tempérer cette tentation-là et d'aller plutôt vers vraiment une implication de chaque baptisé, parce que en fait nous avons tous reçu l'Esprit Saint, et ça depuis les débuts de l'Église, c'est une vérité qui est fondamentale. Bien sûr, certains ont une mission spécifique au sein de l'Église, donc même une autorité, mais tous ont reçu l'Esprit Saint, et il faut arriver à concilier ces réalités mystérieuses et à les vivre, le fait que l'Esprit agit en chacun. Je pense par exemple à ce que dit la règle de Saint Benoît, où dans le monastère on dit que parfois, Saint Benoît dit qu'il faut écouter aussi le dernier venu, le plus jeune, parce que quelquefois l'Esprit Saint se sert de lui pour orienter toute la communauté. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vrai pour l'Église, quoi. C'est celui qui paraît le moins savoir de choses peut être celui en qui l'Esprit Saint va parler. Donc si on ne s'écoute pas les uns les autres, on passe à côté.
Alors dans l'organisation concrète de l'Église au niveau diocésain, il existe un certain nombre de services que vous allez réunir prochainement. Quel est le rôle de ces services et comment ils participent à l'évolution, au développement de l'Église locale?
Alors plus précisément, là, j'ai imaginez, avec l'équipe qui réfléchit sur la synodalité, il y a une petite équipe là depuis 2-3 ans qui nous aide à travailler sur la synodalité. Nous avons réfléchi à voir comment continuer ce travail pour stimuler davantage de synodalité dans notre diocèse, pour être une église synodale en mission, comme nous y invitait le document préparatoire au prochain synode à Rome, qui aura lieu au mois d'octobre, sur la synodalité. Et on s'est dit, mais il y a dans le diocèse des conseils qui se réunissent régulièrement pour prendre des décisions. Et dans ces conseils, il y a des prêtres, il y a des diacres, il y a des religieux, des religieuses, il y a des laïcs, il y a des hommes, des femmes. Et tous ces gens-là sont dans différents conseils, ne se rencontrent pas forcément, ne se connaissent pas. Alors, il y en a quand même beaucoup qui se connaissent, mais en tout cas ne savent pas toujours comment fonctionne l'autre conseil. Ouais. Alors par exemple, je veux vous les citer. Voilà. Il y a je citerai en premier le conseil presbytéral qui réunit chez nous l'ensemble des prêtres. Voilà, il y a aussi une fraternité des diacres qui n'est pas vraiment un conseil, mais qui se réunit aussi plusieurs fois par an. Il y a donc ça c'est pour les prêtres et les diacres. Il y a un conseil épiscopal, c'est-à-dire que là c'est l'évêque qui réunit un conseil, c'est à peu près tous les 15 jours. C'est là où je prends pas une décision sans en avoir parlé au conseil épiscopal, donc dans lequel il y a des prêtres, un diacre et des laïcs, deux dames. Et puis il y a le conseil pastoral diocésain qui est plus formé de laïcs, mais il y a aussi prêtres et diacres, un prêtre et un diacre. Mais ce sont c'est essentiellement des laïcs qui réfléchissent sur les orientations pastorales du diocèse. Voilà, il y a le conseil diocésain des affaires économiques. C'est tout à fait un autre conseil qui réfléchit sur la gestion matérielle du diocèse, avec aussi, comme en France, les diocèses ont une reconnaissance civile sous forme d'une association diocésaine. Donc il y a bien sûr l'assemblée générale de cette association diocésaine qui comporte une petite trentaine trentaine de membres, et il y a un conseil d'administration qui a un certain nombre de prérogatives. Alors, ce sont des différents conseils qui font qu'on ne prend pas de décision en pratique sans avoir consulté ces conseils. Après, j'avais réuni plusieurs fois les chefs de services diocésains. Alors, les services, c'est davantage tout ce qui est catéchèse, catéchuménat, œcuménisme, etc. Donc, ces chefs de services diocésains, ça constitue pas forcément un conseil, mais en tout cas un groupe qui a réfléchi aussi sur des actions à mener. Après, il y avait le conseil diocésain de la solidarité, qui réunissait des personnes qui sont impliquées dans les associations caritatives. Il y a aussi donc cette commission dont j'ai parlé du synode sur la synodalité. Il y a aussi un conseil diocésain de la vie consacrée, pour les religieuses notamment. Et puis, l'année dernière, au mois de septembre, il y a eu un rassemblement à Lourdes qui s'appelait Kérigma, qui correspondait à toute une démarche sur l'annonce de la foi aujourd'hui. Et donc ça a amené à constituer un groupe dans le diocèse, qui est une délégation de 18 personnes qui est partie à Lourdes pour Kérigma et qui est revenue et qui s'est réunie plusieurs fois et qui a fait des propositions. Alors c'est pas non plus un conseil, mais je les ai invités aussi parce que c'est des gens qui ont réfléchi à l'avenir du diocèse et qui peuvent, voilà. Donc on va essayer de mettre ensemble un peu tout ce monde-là et essayer de comprendre comment ça fonctionne et déjà à partir de là, découvrir aussi ce qui nous aide les uns et les autres à avancer.
Ça va être comme une sorte de forum des conseils et des services du diocèse.
Oui, en quelque sorte, avec cette dynamique de la synodalité qui est que nous allons essayer de vivre cette rencontre dans la prière pour que l'Esprit Saint nous guide et essayer de discerner finalement ce qui ressort de cette rencontre. Pas simplement faire un forum pour se connaître, mais essayer de voir, ayant eu cet échange, qu'est-ce que ça produit et vers où ça nous oriente et comment mieux aussi vivre la dimension synodale d'écoute mutuelle et de marche ensemble et de prise de décision. On se rend compte aussi que en fait les décisions prises dans ces différents conseils sont souvent mal comprises ou mal connues. On communique peut-être pas assez sur ce qui se fait en pratique.
Alors, dans un immédiat assez proche, va avoir lieu la journée du migrant et du réfugié. Le Lot a accueilli de nombreux migrants et réfugiés, notamment ces dernières années. Comment l'Église se positionne dans cette situation par rapport à cet accueil qui est parfois diversement apprécié? Qu'est-ce que les chrétiens sont invités à faire par rapport aux migrants?
Mais c'est d'abord la charité fraternelle, hein, l'accueil de l'autre. On est, quand on se situe dans des relations interpersonnelles. Quand on se situe dans le cadre politique, on peut être amené à réfléchir à l'échelle macro sur qu'est-ce qu'il vaut mieux influencer ou pas, et il peut y avoir toutes sortes de débats là-dessus, parce que bien sûr une société, un pays doit réfléchir aux enjeux de son avenir. Enfin, je vois bien qu'en France, avec la dénatalité que nous avons, et ça tient peut-être aussi à des politiques familiales qui ne sont pas toujours favorables, s'il n'y avait pas les migrants, notre économie serait vraiment en berne. C'est une réalité, ça. On la mentionne pas toujours, mais voilà. Après, évidemment, il y a certaines difficultés. Moi, je le vois, et c'est là peut-être qu'on est un petit laboratoire aussi dans l'Église. Nous avons on est simplement au niveau des prêtres, quelques prêtres venant d'Afrique ou d'autres d'ailleurs venant d'autres pays. Mais c'est ce que nous accueillons le plus souvent, et on voit bien que En fait, l'accueil de cette main-d'œuvre étrangère, pourrait-on dire, pour parler en termes sociaux, l'accueil de cette main-d'œuvre étrangère, elle nous apporte beaucoup parce qu'elle nous permet peut-être parfois de boucher des trous, mais finalement aussi de renouveler notre façon de voir, parce qu'ils apportent des pratiques, des manières de faire qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Mais elle n'est pas si facile. On a essayé de réunir quelquefois les prêtres venant d'Afrique, Et on se rend compte que souvent, dans la manière dont on les a accueillis, il y a eu des failles. On n'a pas su bien les accompagner. Ils se sont heurtés à certaines difficultés. Alors, ils ont trouvé des gens pour les aider, pour trouver toutes les démarches administratives qu'ils ont à accomplir. En arrivant, on n'a pas toujours bien su les soutenir. Trouver, par exemple, c'est vrai aussi pour chacun de nous, mais pour quelqu'un qui vient d'un autre pays, c'est encore plus compliqué de trouver un médecin traitant. Une voiture, avoir le permis, parce que bien sûr c'est compliqué. Et puis on se rend compte que on a dit des paroles qui ont été blessantes, et même si on n'en avait pas l'intention, parce que on n'a pas compris tout de suite leur logique et leur manière de faire. Voilà. Et je pense qu'en fait, le pape nous dit pour la journée mondiale des migrants et des réfugiés cette année que Dieu marche avec son peuple. C'est intéressant de voir les migrants comme un chemin, et un chemin dans lequel soit on les laisse marcher, ils se débrouillent, et puis nous on est fixe, on bouge pas et on attend qu'ils s'adaptent, soit on essaye de marcher un peu avec eux, et ça suppose de se déplacer, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils sont là. Soit on est dans l'indifférence, soit on s'implique, quoi, et on se rend compte que ça change tout si on s'implique, même si on fera toujours des maladresses et ça, rien ne sera évident, mais il y a un travail de cheminement à accomplir.
À deux reprises, Père, vous avez évoqué ce marché ensemble, ce marché avec. Est-ce que c'est ce qui pourrait guider cette nouvelle année qui s'ouvre à nous ?
Ben pourquoi pas, oui, en tout cas, c'est un vœu qu'on peut porter, et en sachant que, en revenant sur la lettre pastorale, en sachant que ce que nous faisons, ça reste l'eau que nous apportons, et que nous comptons vraiment sur l'Esprit-Saint, sur l'action du Christ, pour transformer cela et donner de l'enthousiasme à notre manière de marcher ensemble.
Jean-Claude, un dernier mot ?
Par rapport à cette rentrée, on peut évoquer aussi peut-être les difficultés que connaissent nos amis agriculteurs, et en particulier les viticulteurs qui, pour certains d'entre eux, ne vont pas vendanger cette année à cause du gel, à cause de la pluie. Tout un secteur économique un peu ébranlé, notamment avec des épidémies qui se promènent. La difficulté là aussi pour cette population.
Ben oui, on ne peut que compatir à cette difficulté, parce que ça touche aussi tout notre territoire. Et puis c'est un peu dans l'identité du diocèse de Cahors, la question du vin. Les noces de Cana aussi, d'une certaine façon, mais c'est, là, on n'est pas sur le même plan. Mais avec les prêtres, nous avons vécu une journée de détente, là, au mois de juin. On est allé visiter une exploitation viticole dans la basse vallée du Lot. Et on a été sensibilisés à cette... On a eu des échanges avec les vignerons, là, et on a à ces difficultés que vous évoquez. Moi, ce que j'admire, c'est la ténacité de ceux qui se battent pour continuer, en particulier parmi quelques jeunes viticulteurs, et aussi le fait qu'ils s'appuient sur tout ce qui au niveau institutionnel peut les aider. Il y a quand même des démarches qui peuvent être faites. Tous n'y arrivent pas, on est vraiment touché aussi par cette réalité-là. Mais bon, je pense qu'il faut quand même garder l'espoir que ça va pouvoir repartir.
Donc c'est avec cet espoir et tout ce que vous nous avez communiqué aujourd'hui que nous allons poursuivre notre route. Chacun d'entre nous, nous arrivons à... Au terme de cette rencontre, on sera ravis de renouveler, puisqu'on l'a dit au début de cette émission, nous aurons plaisir à vous retrouver au micro de Radio Présence dans le Lot. En tout cas, merci Jean-Claude, merci Père d'être avec nous. Merci Imanol d'avoir été à la technique de ce temps de rencontre, et on se retrouve très prochainement.
À bientôt. Au revoir, à bientôt.